RCF.
L'évangile de ce dimanche évoque la résurrection de Jésus, événement fondateur pour les chrétiens. Pourtant, la fin de la belle histoire du rabbi de Nazareth était mal partie. Lui qui avait dû endurer le supplice de la passion, de la crucifixion, avant de mourir et d'être mis au tombeau, il était la victime d'un drame parmi tant d'autres. Avec le temps, la mémoire de ce Jésus se serait peut-être effacée. Mais l'inouï de la résurrection a bouleversé l'histoire des hommes. C'est en tout cas ce dont témoignent les rédacteurs des évangiles. Aujourd'hui, nous regarderons ce qu'en dit l'évangéliste Jean en compagnie d'Elisabeth Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur luthérienne, théologienne. Nous écoutons la parole. C'est au chapitre 20, versets 1 à 9.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient, tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Elisabeth Parmentier, il nous faut resituer la scène. Nous sommes après la mort de Jésus. Jésus a été placé, justement, mort dans un tombeau, la veille, au soir. Et puis, Marie-Madeleine va au tombeau de bon matin. Il faut rappeler qui est Marie-Madeleine.
Oui, Marie-Madeleine était l'une des femmes qui suivaient Jésus. Alors, il y a eu énormément de littérature autour de Marie-Madeleine. Est-ce qu'elle était la femme de Jésus? Est-ce qu'elle était sa compagne? Enfin bon, ça c'est de la littérature inventée. En tout cas, il y a une tradition qui dit tout simplement qu'elle faisait partie de celles qui suivaient Jésus, puisque n'oublions pas qu'il n'y avait pas que le groupe des 12 hommes choisis par Jésus qui le suivaient, mais que les évangiles donnent des noms d'autres, de femmes qui le suivent.
Et qui vont jusqu'au bout, très fidèles,
à la croix.
Et au tombeau, donc. Dans les autres évangiles, il est dit que des femmes vont pour embaumer Jésus, poser des aromates, comme c'était la tradition. Mais là, visiblement, ça a été fait avant, puisque Jean nous dit que c'est Nicodème qui s'est chargé de cette tâche.
Oui, alors dans les autres évangiles, on a même les noms des femmes, puisque chez Matthieu, on a deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre Marie, donc on ne sait pas quelle Marie, si c'est la mère de Jésus ou une autre. Chez Marc, on a trois femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé. Et chez Luc, c'est Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Jeanne. Donc il y a des traditions différentes qui ont donné lieu aux évangiles. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Marie-Madeleine est dans toutes les traditions. Et chez Jean, elle a un rôle particulier ici, puisqu'elle est seule dans cet épisode-là.
Et la première.
C'est pourquoi d'ailleurs, elle a été appelée par la tradition apôtre des apôtres, ce qui n'est pas rien.
Reprenons le texte. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du Shabbat pour les Juifs.
C'est ça. Ce qui est devenu le dimanche pour les chrétiens, jour de la résurrection.
Alors le premier jour de la semaine, ça peut nous faire penser aussi au livre de la Genèse. On a là ici une nouvelle création peut-être ?
Absolument, surtout que le prologue de Jean, nous sommes ici dans l'évangile selon Jean, le tout premier chapitre commence par « au commencement », exactement comme la Genèse. Donc on se situe véritablement dans cet évangile, dans un nouveau commencement. Et n'oublions pas que tous les évangiles ont été écrits à partir de Pâques. Donc les évangiles n'ont pas été écrits comme une sorte de biographie de Jésus, mais ce sont des récits qui ont pour spécificité d'être écrits à rebours. à partir de l'événement de Pâques.
Et oui, 70 ans après les événements pour Jean.
Voilà, exactement.
Environ.
Et on pense peut-être même plus, mais effectivement autour de la fin du 1er siècle, donc c'est assez incroyable.
Le jour se lève sur ce tombeau vide, mais il y est fait mention aussi des ténèbres.
Oui.
Alors c'est intéressant parce que chez Jean, ces ténèbres, elles reviennent aussi souvent dans le texte. Lumière, ténèbres.
Oui, depuis le commencement, depuis le premier chapitre, la lumière l'emporte sur les ténèbres, mais les ténèbres ne croient pas en la lumière ou au Verbe qu'est Jésus, qu'est Dieu venu visiter les siens. Et ici, on a véritablement le triomphe de la lumière sur les ténèbres, voyant néanmoins que ce n'est pas un triomphe spectaculaire. Mais ça, on va y revenir, je pense.
Nous regardons avec vous, Elisabeth Parmentier, ce texte de la résurrection chez Jean. Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. » On peut imaginer la stupeur de Marie-Madeleine qui va courir. Revenons sur ce passage. Qu'est-ce qui ressort de là? En fait, elle voit quoi? Elle voit juste une pierre qui a été retirée. Elle voit rien du tout. Elle s'en va immédiatement.
Ce qui est assez extraordinaire dans tous les évangiles, c'est que finalement, on ne voit rien. Et ça, il faut vraiment l'insister là-dessus, voilà, parce que ce n'est pas du spectaculaire et on voit bien que ce n'est pas du conte merveilleux où finalement, il y a des effets spéciaux, des mises en scène. Au fond, la mise en scène, elle est hyper sobre, même dans cet évangile qui est le plus tardif. C'est que au fond, on voit l'absence du corps. Le corps qui est au fond la dernière chose qui leur restait de Jésus, ben on le leur a pris. Donc je ne sais pas encore si on peut déjà ici dire qu'elle pressent quelque chose. En tout cas, elle se fait porteuse de cette étrange nouvelle que le corps a disparu. Soulignons peut-être aussi, pour ne pas que je l'oublie, que c'est quand même extraordinaire que ce soit des femmes qui soient porteuses de la première nouvelle. Alors ça, on l'a redit dans l'histoire de l'Église. Ça aussi, c'est intéressant, comment un rédacteur qui était quand même un homme, à une époque où la parole des femmes ne comptait pas, comment se fait-il qu'un rédacteur et tous les rédacteurs des quatre évangiles aient dit la même chose? Ce sont des femmes qui ont été les premières à découvrir et à transmettre la nouvelle.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Elisabeth Parmentier, elle court, Marie-Madeleine, elle court de bon matin. Rencontrer qui? Simon-Pierre et Jean, en tout cas celui qu'on croit être Jean, le disciple que Jésus aimait, les deux qui ont suivi Jésus. Pierre en le trahissant, certes, mais il l'a suivi quand même.
Hein. Oui.
Et puis Jean qui était au pied de la croix.
Absolument. Au fond, les deux aussi représentants, entre guillemets, du cercle des disciples les plus proches. En fait, l'un des premiers appelés qui était Simon-Pierre et Jean, le disciple que Jésus aimait, ou bien l'autre disciple comme il est appelé quelquefois dans cet évangile. Donc tout le monde semble savoir de quoi on parle. Donc en quelque sorte, ils sont représentatifs et certainement les personnes qui font autorité dans ce cercle des disciples qui restent, qui sont restés fidèles.
Alors Marie-Madeleine est allée prévenir Pierre et Jean que, selon elle, le corps avait été enlevé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. La course, elle est là tout le temps. D'abord dans la première course de Marie vers Pierre et Jean, et puis après de Pierre et Jean vers le tombeau.
Oui, quand on imagine ça mis en image, c'est extraordinaire. On peut imaginer les expressions des visages, l'angoisse, l'espoir.
Questions.
Et cette course dans les deux sens, dans les deux fois. Et j'imagine que Marie-Madeleine les a accompagnés. Bah oui, elle les a accompagnés puisqu'elle réapparaît dans le passage qui suit, que nous n'étudierons pas, juste après. Donc elle va revenir au tombeau avec eux.
Alors est-ce que l'ordre d'arrivée a une importance?
Tout à fait.
On nous dit que c'est Jean qui arrive le premier, mais il ne rentre pas. Il attend que Pierre rentre en premier.
Mais il laisse Pierre entrer le premier et Pierre constate. Mais il est dit de Jean qui entre en second, qu'il vit et il crut.
Oui, alors on aura l'occasion d'y revenir.
Oui, oui.
En se penchant, Jean va voir avant Pierre puisqu'il arrive en premier. Donc les linges sont posés à plat. Il n'entre pas. Et puis Simon-Pierre qui le suit arrive. Lui aussi voit les linges posés à plat. ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. On se dit, mais pourquoi ces histoires de linge et de suaire, puisqu'il n'y a pas de détails, sauf cela.
Oui, oui, exactement. Donc, c'est très étrange de voir que tout ce qui reste, c'est des linges. Alors, je me suis beaucoup interrogée sur la signification et je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, premièrement, de manière tout à fait logique, si le corps avait été volé, pourquoi on aurait pris la peine d'enlever les linges?
Donc, oui, parce que c'était des bandes, sortes de bandes qui entouraient le corps.
Qui entouraient le corps.
Et donc, effectivement, si le corps avait été volé, on aurait tout pris.
Oui, j'ai penser tout à fait rationnellement et logiquement, c'est certainement une explication. Et la deuxième chose qui est un peu étrange, c'est que ça semble correctement rangé. C'est pas juste jeté comme ça n'importe comment, puisque le suaire est roulé et posé à sa place. Donc c'est comme si quelqu'un avait pris le temps de soigneusement ranger, en tout cas le suaire, c'est-à-dire la partie qui entourait la tête. Donc c'est une manière de dire c'est quelque chose qui a pris son temps, qui a été dans l'ordre des choses et c'est le dernier signe que c'était bien le crucifié au fond.
En tout cas, énorme sobriété dans ce qui est décrit.
Oui, voilà.
Il y a pas, on va vous expliquer de la part des évangélistes, on va vous expliquer comment ça s'est passé, rien.
Oui, et c'est ça qui est finalement le plus convaincant. L'évangile de Marc, qui est le plus ancien, est tout à fait sobre aussi. Il n'y a pas cette course avec Pierre et Jean, mais simplement les femmes. Et il est chez Marc, c'est la peur qui domine. Au fond, il sait même pas encore l'explication, mais c'est la peur. Et finalement, si on n'avait pas une parole interprétative qui vient après ou qui accompagne ce tombeau vide, on ne saurait rien, on n'aurait pas d'explication. Donc on aura besoin après d'une parole interprétative. Mais ce qui me paraît important ici, pourquoi je dis que c'est le plus convaincant, parce que si c'était des contes merveilleux, style genre merveilleux, on se serait empressé de nous donner des détails. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aucun des évangiles ne cherche à enjoliver ce qui s'est passé. Et que de plus, des textes qui n'ont pas été retenus dans le choix des livres bibliques comportent des éléments de merveilleux. Il y a des récits qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire au fond qui n'ont pas été retenus. Par exemple, que le tombeau est roulé par la croix du Christ, que c'est une croix renversée qui sort du tombeau, mais il n'y a rien de tel. Et on ne voit pas l'événement de sortie du tombeau. On n'a que l'interprétation.
Élisabeth Parmentier, après Pierre, c'est au tour de Jean de pénétrer dans le tombeau, et Jean nous dit « Il vit et il crut ». Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il vit et il crut. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a rien à voir. Il vit, mais alors il vit quoi ?
Il vit qu'il n'y a pas de corps, et que finalement, le Seigneur, il est quelque part, mais...
Jamais là où on l'attend.
Voilà, c'est pas du tout dans la logique humaine. Il n'y a rien qu'on peut expliquer là-dedans. Et donc, ça n'est pas son cerveau qui fonctionne ici, c'est cette intuition profonde. Il se passe quelque chose qui le renvoie à la réalité de ce que Jésus avait annoncé, qu'il ressusciterait.
Donc, Jean voit une disparition inexplicable. Ce qu'il voit là, c'est pas une preuve.
Non.
Mais il relie ça avec la foi.
Oui. Il faut penser que c'était de l'impensé à l'époque, précisément. C'était pas. Alors, c'est intéressant parce que dans le même chapitre, on aura Thomas. Donc, Thomas que tout le monde connaît. S'il y a un disciple célèbre, c'est lui, parce que lui, il demande à avoir des preuves. Il veut toucher. Et toucher les marques dans les mains et les pieds pour savoir que c'est bien le crucifié quand Jésus lui apparaît, ou plutôt le Christ lui apparaît. Et il dit, si je n'ai pas touché, je ne croirai pas. Et cette parole de Jésus, le verbe voir, est continue dans ce chapitre 20 tout le long. Et Jésus lui répond précisément, heureux ceux qui croient sans voir. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a un jeu de mots énorme. Chaque fois, le verbe voir est utilisé dans un autre sens. Ici, Jean voit, mais il voit rien, qui serait de l'ordre de la preuve. Thomas, il voit le ressuscité, mais finalement il n'arrive pas à croire tout en le voyant. C'est extraordinaire le jeu sur le verbe voir et croire, c'est-à-dire au fond cette paire, voir et croire.
Jean nous dit que les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite. Donc il est question de l'Écriture, c'est-à-dire ce que raconte la Bible, toute l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc que ces hommes connaissaient très bien, et ils vont, à la lumière de cette longue histoire du peuple avec son Dieu, ils vont se dire là, il y a quelque chose. C'est ça? Ça veut dire ça?
Je pense que ce qui est très très important, c'est qu'il n'y aurait pas de possibilité de comprendre le sens de la résurrection s'il n'y avait pas la mémoire de toute cette alliance de Dieu avec son peuple, la manière dont il a accompagné déjà le peuple d'Israël, ce que les prophètes ont annoncé, le Messie qui viendrait, donc déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas limité au Nouveau Testament et c'est pourquoi nous avons besoin de toute la Bible et de tous les textes bibliques et puis aussi précisément tout ce que Jésus de Nazareth avait lui-même annoncé de son destin. Et effectivement, ils sont pétris de cette réalité de la promesse que Dieu a donnée et qui a été en quelque sorte représentée et vécue par Jésus de Nazareth. Et là où ils avaient abandonné tout espoir et où ils étaient dans ce sentiment de l'échec, arrive cette mémoire profonde qui a pétri ce peuple. Et eux, en héritiers de cette mémoire, savent du coup faire le lien. Et je dirais psychologiquement c'est intéressant, puisque les scientifiques nous disent notre cerveau est toujours en train de classer les informations et il arrive à classer des nouvelles choses en fonction de ce qu'il connaît. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de mémoire, nous n'arrivons pas à assimiler les choses nouvelles parce qu'elles sont tout simplement inclassables.
Et il faut rappeler que les évangiles justement ont été écrits à la lumière d'une histoire, c'est-à-dire que des hommes ont eu le temps de faire des liens. Hein, c'est long, nous disions que les évangiles ont été écrits bien après les faits.
Oui.
Et du coup, il y a une sorte de contextualisation de ce qui s'est passé dans une histoire beaucoup plus large.
Oui, alors rappelons l'histoire, c'est-à-dire que si Jésus est mort dans les années 30, nous avons ici pratiquement 60 à 70 ans qui ont passé. Et pour cet évangile-là, il y a une longue maturation. Les rédacteurs ont repris des collections de paroles de Jésus qui existaient, qui se transmettaient oralement et qui étaient surtout concentrées autour de ces petits credos, comme on les appelle, ces petites confessions de foi. Il est ressuscité le troisième jour, il est apparu à Képhas, donc à Pierre, et aux disciples. Ensuite, les disciples sont partis témoigner de cela.
Oui, ça part de ça. Hein.
Ça part de ça. Ça, c'est vraiment le noyau de ce qu'on appelle les évangiles. Et puis ensuite, on est parti à rebours, comme je disais au début de l'émission, pour raconter, au fond, essayer de comprendre. Mais à partir de là, revenons en arrière, comment tout ça a été possible, comment Jésus en est arrivé là, et puis c'est comme ça qu'on arrive. Et les récits, finalement, les plus tardifs sont les récits de l'enfance ou les récits du début du ministère. Donc c'est pas du tout notre cohérence de lecteur.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Élisabeth Parmentier, nous avons pris le temps de regarder ce récit de la résurrection chez Jean, au chapitre 20. Au fond, en quoi ce qui vient d'être entendu nous rejoint aujourd'hui? En quoi c'est une bonne nouvelle pour nous?
Je dirais, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça n'est pas une extase mystique. Et c'est pas quelque chose qui sort les disciples de leur réalité humaine. C'est quelque chose qui se passe dans leur réalité humaine, mais qui n'a rien de spectaculaire et qui, malheureusement, en tout cas, ne transforme pas l'ordre du monde. Ils ne deviennent pas soudainement riches, pleins de potentialités, ils ne deviennent pas des super-héros ou des super-témoins de la foi. Ils restent des humains comme ils l'ont toujours été. Et en cela, c'est aussi très proche, très sobre, très vrai. On est complètement dans les réalités humaines et ils ne planent pas dans des hautes sphères d'extase. Et puis il y a un verset qui manque dans le choix que nous impose
la liturgie,
c'est le verset qui suit où il est dit « ils retournèrent chez eux ». Donc ça c'est très très important parce que où est-ce qu'ils vont après? Ils retournent dans leur vie.
Leur vie quotidienne.
Leur vie quotidienne. Et c'est là qu'ils vont être témoins. Et pour moi ce qui est à retenir aussi c'est pourquoi je suis chrétienne aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que je pense que il y a eu cet événement extraordinaire de la résurrection? Comment j'ai des preuves? Est-ce que j'ai besoin de preuves? Pour moi, le vrai miracle ici, c'est surtout quel a été ce saisissement qui a saisi des gens tellement simples, qui étaient des gens ordinaires, pas extraordinairement doux et spirituellement.
C'était pas les prêtres de Jérusalem. Hein.
Voilà, c'était pas des gens dans la religion, comme on dirait aujourd'hui, pétris de convictions ou particulièrement engagés dans leur religion. Mais ils étaient, quelque chose les a tellement saisis qu'ils sont t'es prêt à aller jusqu'au martyr. Alors quand on me dit, mais ils ont inventé tout ça, ils n'ont pas surmonté l'échec, ils ont voulu inventer quelque chose.
Pour les consoler.
Voilà, pour que les gens ne soient pas déçus. Mais pourquoi aurait-on inventé quelque chose d'aussi incroyable où il n'y a rien à voir si ça avait été inventé? Ça, il y aurait quelque chose à voir. Ils auraient inventé au moins de telle manière qu'on arrive à le croire. Première chose. Deuxième chose, pourquoi serait-il allé jusqu'au martyr? C'était presque plus fort qu'eux. Il fallait qu'ils disent ce qu'ils ont vécu. C'était au-delà de leur possibilité de le garder pour eux. Et la troisième chose, c'est qu'ils ne sont pas devenus, après, des êtres extraordinaires. Ils sont restés ce qu'ils étaient, humains, avec des faiblesses.
Avec leurs failles.
Voilà, exactement. Et en cela, pour moi, en tant que chrétienne, c'est important. Je peux être témoin et je transmets une sorte de relais. Comme la course ici, la course de relais, je viens et je vois, ou je ne vois pas et je crois. Et la question c'est, est-ce que si j'arrive là, que je vois ce tombeau, que je vois qu'il ne reste rien, est-ce qu'au quotidien je peux croire? Et il y a plein de jours au quotidien où je ne peux pas croire, je vois le tombeau vide.
Oui, quand il nous arrive des difficultés, ou quand le monde traverse des horreurs, le tombeau, là, il est là.
Et c'est tout à fait ça, ça c'est notre vraie réalité humaine. On n'a pas d'extase mystique, enfin en tout cas pas moi, fréquente, qui me permet de dire, mais c'est sûr, c'est autre chose. Mais je suis bien plus souvent dans mon quotidien devant des réalités qui ressemblent au tombeau vide, où il n'y a strictement rien à voir. Et la question c'est, est-ce que tu peux quand même te lancer dans cette espérance? Est-ce que tu acceptes ce saisissement? Si tu fais mémoire de tout ce qui est dit dans les textes bibliques, si tu connais bien les textes bibliques et que tu sais ce qui y est et ce que tu as reçu, est-ce que tu peux t'abandonner là-dedans, comme Jean l'a fait? Et ça, c'est la question qui m'est posée.
Autrement dit, est-ce que je reste à regarder le tombeau dans le deuil, ce que fera Marie-Madeleine d'ailleurs dans la scène suivante, où elle regarde vers le tombeau, ou est-ce que je regarde ailleurs et je me retourne pour marcher, aller ma vie et croire qu'une espérance est possible?
C'est exactement ça. Et puis c'est très beau après dans l'épisode qui suit que Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus qui se trouve près d'elle, elle le prend pour le jardinier, mais il l'appelle par son nom. Et donc est-ce que je peux entendre que je suis appelée par mon nom, comme les disciples à un moment donné ont été appelés, et que quelque part ça résonne en moi de manière vraiment personnelle? Je suis pas un troupeau ou même un petit groupe, mais c'est pas quelque chose d'ésotérique, mais est-ce que je peux me sentir emportée, saisie par cette confiance? Et de marcher sur cette course qui passe par des chemins où je vois pas le sol. Au sens, je ne vois que le sol accidenté, je vois pas ce qui est derrière, le sol solide sur lequel je peux m'appuyer, qui est finalement l'espérance de la résurrection. Mais pour moi, c'est central. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, je pourrais dire de Jésus, c'est un grand prophète, c'est certainement un envoyé de Dieu.
Un sage.
Voilà, et puis il a énormément de choses dans son éthique, dans sa parole, dans sa prédication, qui sont extraordinairement importantes pour l'être humain. Mais est-ce que je peux aller au-delà, vers un autre horizon? Est-ce que je peux faire confiance à une parole qui n'est pas simplement ma parole humaine ou mon engagement humain?
Mais c'est ce qu'on appelle une grâce, un cadeau, d'avoir la foi, de croire en cet événement avec si peu de détails, finalement, où il n'y a pas de preuves. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je vous envie, j'aimerais pouvoir croire.
Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça, effectivement. À quoi est-ce que ça tient de pouvoir être saisi, de pouvoir vivre ce saisissement?
Il faut le demander?
Je crois qu'il faut le demander humblement. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, comme nous le disons à l'Eucharistie. Ou alors de dire, mais moi je n'arrive pas à croire, comme dit Thomas. Et finalement, heureusement que nous avons Thomas. Parce que Thomas, il nous représente en quelque sorte. Mais Pierre aussi, parce que Pierre a quand même renié Jésus. Je dirais chacun des personnages qui entourent Jésus est pétri d'humanité. Donc ça nous aide aussi. Et puis je crois qu'une bonne connaissance des textes bibliques, avec un respect des textes et pas de mes propres idées, aide aussi une certaine humilité devant ce qui émane des textes. Je demande à comprendre, je demande et j'espère et je crois d'une certaine façon.
Merci à vous, Elisabeth Parmentier. Pour ceux et celles qui souhaitent relire cet évangile, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Merci à Nicolas Imbert à la technique.